Il est 19h19 et en ce dimanche soir, je reçois un grand journaliste qui suit avec toujours autant de passion et de curiosité l'évolution et les soubresauts de notre société. Bonsoir Robert Namias.
Bonsoir Wendy.
Vous qui allez jusqu'à imaginer la France de demain, demain c'est tout proche, hein, 2025, dans le roman politique Le Brun et le Rouge que vous avez coécrit avec Michel Cotta, une France déchirée qui pense avoir tout essayé et qui se jette dans une alliance populiste qui va la mener très loin. Est-ce la révolte des Gilets jaunes notamment qui vous a fait sentir ce scénario et ce danger conjoint?
Écoutez, on a écrit ce livre il y a maintenant presque un an. On a mis une année à l'écrire, donc avant les derniers événements. Mais c'est vrai, pendant d'ailleurs la crise des Gilets jaunes. Et c'est vrai que c'est depuis 3 ans, la France est à la fois déchirée, il n'y a pas d'autre mot, par une crise, il n'y avait pas de crise sanitaire, mais par une crise sociale, par une crise économique, et puis surtout par une déliquescence du politique qui, effectivement, est le creuset de tous les possibles. Donc on a imaginé un possible qui, aujourd'hui, moi je le pense, reste encore improbable, mais qui n'est plus tout à fait à exclure. C'est au fond l'arrivée et l'élection d'une candidate d'extrême droite à la présidence de la République. Je dis bien d'une candidate d'extrême droite parce que c'est un personnage composite.
La vôtre est toute jeune. Hein.
Oui, voilà. Certains y ont vu effectivement
Marion Maréchal.
Marion Maréchal. C'est un peu plus compliqué que ça. Simplement, délibérément, ça n'est pas Marine Le Pen pour un certain nombre de raisons que je pourrais expliquer, mais peu importe. Mais parce que je pense que ce personnage sera moins tranché, plus ouvert. C'est au fond l'électorat de la droite dure et pas seulement du Rassemblement National, qui évidemment à un moment donné peut devenir majoritaire compte tenu de la situation, notamment de désordre dans laquelle le pays pourrait se trouver. Et puis au fond, il s'y trouve déjà d'une certaine manière,
oui,
il faut bien le reconnaître.
Vous avez bien précisé, Robert, que vous avez écrit ce livre il y a un an, qu'en un an rien ne s'est arrangé. 1 million de Français sont de plus passés sous le seuil de pauvreté, 21% des jeunes au chômage, une dette inqualifiable. Donc on a ce feu qui couve, c'est déjà résolu quasiment dans votre livre, mais on a ce feu qui couve et il faut être très attentif aux mois qui viennent.
D'abord Wendy, je tiens à préciser quand même que c'est une fiction.
Un roman politique fictionnel, mais très réaliste.
Un peu dans la suite du précédent que nous avions écrit avec Michel, Fake News. C'est un roman avec tous les codes du polar, c'est-à-dire qu'il y a des meurtres, mais ce sont des meurtres d'hommes politiques, évidemment. Il y a donc des enquêtes, une enquête journalistique, une enquête policière, qui débouche sur un dénouement, évidemment, que l'on espère le plus surprenant possible. Ce qui était très important pour nous, c'est de coller quand même à une réalité qui rend les choses crédibles. Or, on peut trouver que c'est fantasque, un roman c'est toujours, il y a une part de fantasque dans un roman, il y a une part d'imaginaire qui peut-être ne se produira jamais, mais qui est aujourd'hui crédible. Et je pense encore une fois que la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui rend les choses crédibles. Par exemple, c'est vrai que cette candidate d'extrême droite, qui est candidate dans une France qui est relativement abîmée par tout ce que l'on a dit, elle n'est pas élue par son seul électorat, ni même le seul électorat d'extrême droite. Ce qu'on imagine également, mais là, il y a une part d'analyse politique, puis il y a une part de roman. Ce qu'on imagine, c'est que une bonne partie de l'électorat d'extrême gauche, et pour tout dire, qui aujourd'hui vraisemblablement se retrouve dans la France insoumise, etc. Une bonne partie de cet électorat qui vient elle-même vraisemblablement de ce que a été l'extrême gauche dans les 20 ou 30 ans dernières années, c'est-à-dire à la fois une extrême gauche du Parti communiste, une extrême gauche du Parti gauchiste d'ailleurs de l'époque, bon très bien, et cette partie de l'électorat, on voit qu'elle est très sensible à un discours qui est un discours, en réalité, qui converge avec parfois le discours de l'extrême. Je dis bien le discours.
Le protectionnisme, le rétablissement des frontières.
Le protectionnisme, le rapport à l'Europe.
Oui.
Le discours maintenant délibérément et volontairement ultra-social du Rassemblement National, la retraite à 60 ans et l'augmentation de toutes les prestations, la fermeture des frontières. On a encore vu les propos de François Ruffin il y a quelques jours concernant la fermeture des frontières. Tout le monde a souligné à ce propos que la convergence était quand même tout à fait surprenante avec le discours du Rassemblement National. Et ce que nous nous imaginons, si vous voulez, c'est qu'elle est portée au pouvoir parce que, au fond, elle a su séduire, à un moment donné, un électorat qui, peut-être, dans un premier tour, a voté à l'extrême-gauche, mais qui se retrouvera finalement beaucoup plus dans le projet du Rassemblement National, y compris le projet social, anti-européen, protectionniste, que dans tout autre projet. Au fond, ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années, dans le Midi par exemple, ce qu'on appelait à l'époque le Midi Rouge, vous voyez, c'est toute la bande qui est de Perpignan à une partie quasiment jusqu'au Pays Basque, en passant par Montpellier, Béziers, Carcassonne, etc. Ce qu'on appelle le Midi Rouge. Bon. Ce Midi Rouge, il s'appelait comme ça parce que pendant des années et des années, il a voté communiste, accessoirement socialiste, mais essentiellement communiste. Et puis, progressivement, on l'a vu à partir des années 95, même 90, on a vu une partie de cet électorat s'échapper, mais il n'est pas passé par la case centre-gauche ou centre-droit, il est allé directement du côté du Front National, d'où le fait que le Rassemblement National aujourd'hui est extrêmement présent dans ce Midi qui n'est plus rouge du tout, mais qui est brun.
Et on sent l'évolution, et on la suit, l'évolution politique et celle des consciences dans votre livre, votre roman, Le Brun et le Rouge, coécrit avec Michel Cotta. Vous nous expliquez bien ces implantations différentes. Il y a beaucoup de cadavres, hein, beaucoup de cadavres, de trahison aussi énormément.
Assez haletant, d'ailleurs.
Et c'est cette France qui a tout essayé. Hein. Elle a essayé la droite, la gauche classique, un candidat du centre, des gens plus ou moins chevronnés, et elle se lance dans l'inconnu en se disant et pourquoi pas. Et moi, j'aimerais vous poser aussi une question qui rejoint l'actualité. Cette interview du général de Villiers aujourd'hui dans Le Parisien, qui n'est pas candidat, mais que les médias commencent à porter comme ça régulièrement, et qui dit les Français réclament de l'autorité. C'est potentiellement un personnage de roman, mais qui peut devenir un personnage politique de premier plan demain, Robert Damias ?
Ce qui est sûr en tous les cas, et ça je pense que personne qui connaît un peu les mouvements historiques aussi bien en France qu'ailleurs, d'ailleurs et notamment en Europe, le désordre pousse vers l'ordre. Bon, et le général de Villiers, parmi d'autres d'ailleurs, ne disent pas autre chose. J'entendais tout à l'heure Marine Le Pen sur une chaîne d'information, sur LCI, qui évidemment se présentait comme une femme d'ordre capable de ramener le calme dans ce pays. C'est tellement tentant, c'est tellement facile. Donc on voit bien. Or, ce désordre, par qui il est créé ? Et ça rejoint effectivement les thématiques de notre livre. Il est quand même globalement créé par l'extrême-gauche. Vraisemblablement par une toute petite, une fraction identitaire de l'extrême droite, mais enfin, extrêmement minoritaire, mais essentiellement par l'extrême gauche.
Et c'est ça l'alliance objective dont vous parlez.
Absolument. Mmh. Et une alliance objective qui fait que, finalement, cet électorat finit par porter au pouvoir cette candidate d'extrême droite, qui fait qu'également, à un moment donné, cette extrême gauche-là, dans notre roman, va éclater parce qu'une partie est prête à collaborer sur les thématiques sociales, sur les thématiques anti-européennes, sur les thématiques protectionnistes, alors que l'autre partie, l'extrême-gauche, refuse absolument de collaborer. Mais cette partie qui collabore, finalement, va permettre à cette candidate et à cette jeune présidente de s'installer vraiment au pouvoir, de prendre, alors là, pour le coup, progressivement des mesures de plus en plus liberticides, et ça c'est le roman qui le développe, évidemment, mais au point que à un moment donné, il y aura rupture, et au fond, ce que l'on dit également...
N'en dites pas trop.
Je n'en dis pas trop, mais chacun connaît, effectivement, sans avoir lu Lénine dans le détail, il y a toujours à un moment donné des gens qui servent non plus de marchepied, mais qui sont ce qu'on appelle politiquement les idiots utiles.
Voilà.
Or, nous on pense, et c'est ce qu'on décrit aussi à travers notre roman, qu'à un moment donné, à jouer ce jeu, l'extrême gauche finira par être l'idiot utile de l'extrême droite.
C'est passionnant, c'est extrêmement bien écrit, cette France qui plonge dans ces années noires, ces trois ans qui l'amènent au fascisme. Le dénouement, vous le lirez, je vous le souhaite, chez Robert Laffont. Robert Namias avec Michel Cotta, Le Brun et le Rouge. Merci beaucoup Robert pour
Merci,
cette lecture qui nous attend et votre lecture de l'actualité. Merci.